Bien sûr que le seul peuple qui a gardé son nom et ne l'a pas donné à son pays, c'est Israël. Bon, j'ai pris ça en schématisant, mais dans l'Antiquité, c'était les peuples qui étaient nommés, qui avaient un nom. Et la terre d'un peuple était nommée la terre de ce peuple. C'est resté que Eretz Israël, la terre d'Israël. Et c'est Israël, le peuple, qui est nommé Israël, pas le pays. Ça, c'est les journalistes qui nous parlent d'Israël comme on parle du Portugal ou de l'Angleterre. Okay? Mais en hébreu, c'est pas possible. C'est le peuple qui s'appelle Israël. Et le pays, c'est le pays du peuple. Notre pays s'appelle Eretz Israël. Provisoirement, on l'appelle Médina d'Israël, parce que les frontières de la Médina, qui sont d'ailleurs des non-frontières, sont avec encore les frontières du pays. Mais quand les frontières du pays sont les frontières du pays, le nom du pays, c'est tout simplement chaque Eretz Israël. Et pas Israël. Israël, c'est le peuple. C'est clair? Regardez par exemple ce qui est arrivé à la France. Il y avait une fois, une tribu qui s'appelait les Francs. C'était des hommes qui s'appelaient des Francs. Alors on a pris le nom à la tribu, on l'a donné au pays, c'est devenu la France, et maintenant il n'y a plus de Francs, il n'y a que des Français. Vous avez compris la différence? C'est-à-dire, on est indexé. C'est vrai?
C'est dérivé de la France, alors.
Oui, ça veut dire que on ne nomme plus les hommes par leur identité humaine, mais comme une pièce d'ordre d'un ordre impersonnel qui est la cité. C'est une catastrophe. C'est clair? Bon. Alors où est-ce que les patriarches sont allés quand ils sont rentrés en Eretz Israël? Dans un endroit où l'homme a déjà repris le nom à la cité. Comment il s'appelle ce Shrem? Shrem. Vous avez remarqué ça? Donc ils savaient où ils allaient. C'est-à-dire, si sur un point du monde, la ville a rendu le nom à l'homme, c'est là que ça se passe. C'est là qu'on va trouver le prince Arthur en question. Voilà. Vous avez compris pourquoi ils allaient à Shrem? Peut-être. Et alors, ça a mal tourné, parce que le Shrem en question, c'était quand même un barbare. C'est-à-dire, tout a été mis en place. Dans le premier texte que vous avez lu très rapidement, Jacob donne à Shrem la législation du mariage. C'est clair? Donc, disons, la civilisation avec des grands guillemets. Et puis, tout arrive. Ce bonhomme existe. Un homme à qui la ville a rendu le nom. Le roi de Shrem s'appelait Hamor, et la ville s'appelait Shrem. Et voilà qu'on est arrivé à un stade où le prince, le fils du roi, a le nom de la ville, c'est-à-dire la ville lui a rendu le nom. Alors, tout est en place, et cependant, c'est le dernier verset que je vous ai lu, cet amour de Shrem pour Dina, c'est l'amour d'un barbare. Il l'a prise de force. Alors, c'est là que les frères interviennent. Alors, je vais vous faire les deux. Ça y est, c'est plus clair maintenant ? Faire les deux raisonnements. Le raisonnement de Jacob comme Jacob, et je ne sais pas si j'ai le droit de formuler ça comme ça, mais j'improvise. Bon, la perfection n'est pas ce monde. Shrem est encore un barbare, mais ça va s'arranger. Alors on va faire un accord avec eux. Ils prendront nos filles, nous prendrons leurs filles, on fera le même peuple. Vous voyez, la vision de Jacob, une vision de Pshara. Shimon et Lévi interviennent. Une chose pareille en Israël, c'est pas possible. Je vais vous donner un détail. Vous voyez, quand c'est Jacob qui dit on essaye, Israël dit c'est pas possible. On attendra que Shrem ne soit plus un barbare. On sait que ça peut exister. Et si Shrem existe, alors ça sera le chef de la 13e tribu. Il achève à la fois l'unité d'Israël et le lien avec l'universel humain. Et les Juifs ont cherché Shrem partout. Ce prince charmant, pendant tous nos exils, on a cru qu'il était là où on était. Les Juifs français étaient persuadés que c'était un Français. Les Juifs russes ont été persuadés que c'était un Russe. Verroulé, verroulé. Et chaque fois, c'est un barbare. Et c'est ce que j'ai dit là. C'est-à-dire, regardez ce qui se passe en France. Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. La ville a rendu ses droits à l'homme. Les Juifs sont devenus amoureux de la France. Il n'en reste pas moins que la France, c'est des barbares. Enfin, je n'ai pas dit les Français, j'ai dit la France. Dans tous les peuples, il y a des chassidés au Montaholam. Mais le peuple, en tant que tel, il n'y a qu'à voir sa politique vis-à-vis d'Israël. Marché commun. Etc. Bon, est-ce que c'est clair, bien que schématique, tout ce que je vous dis là? Et alors, effectivement, les Juifs de France ont été persuadés que Shrem, c'était en France. Les Juifs de Russie, que c'était en Russie. Chaque Juif a son goy préféré. le sien. C'est lui, je t'aime. Et bien voilà, c'est toujours cette histoire. Et on l'a cherché partout. On a toujours été déçus. On a cru que c'est arrivé. Et bien, c'est pas arrivé. Voilà de quoi il s'agit. Vous voyez, c'est clair? J'espère qu'on a remis les choses à l'endroit. Shimon et Lévi sont dans la dignité d'Israël totale. Et c'est la différence de stratégie entre Jacob et Israël. Au niveau d'Israël, une chose pareille n'est pas possible. Jacob est prêt à n'importe quoi. Et vous devinez vous-même, d'ailleurs en filigrane, comment ces problèmes travaillent la société juive contemporaine vis-à-vis du problème qui se pose à nous. Alors il y a la réaction de type Jacob, Pshara, et la réaction de type Israël, pas question. Mais c'est évidemment Israël qui triomphe.
Pourquoi Jacob dit, à cause de ça, toutes les nations...
Tu n'as pas entendu Shimon Peres, okay. C'est la même chose. Exactement ce que Shimon Peres est en train de nous dire. Paras Gader. Trop ça. Et c'est la même chose. Vous voyez comment on fonctionne exactement comme selon notre carte d'identité. Cette panique, qu'est-ce que vont dire les goïms? Alors qu'à cause de ce que vont dire les goïms, Shimon et Lévi vont laisser faire ce qui a été fait à leur sœur. Dans la tête de qui ça va entrer? Comme on disait en judéo-arabe, les goïms qui se transforment en sonnerie de téléphone. Il y avait encore Inzenzlo. Vous connaissez le judéo arabe? L'Inzenzel. C'est la sonorité.
La notion de Rive Lachem par rapport à Rive, elle existe quand même. Elle existe également.
La notion de
Rive Lachem par rapport
à. Il ne s'agit pas de Rive Lachem. Au contraire, lorsqu'on fait le bien, tu appelles ça Rive Lachem. Il s'agit de l'eau. Comment ils disent Al-Tagourou. L'Otagorum est bénéfique. Non, c'est-à-dire ne pas exciter l'égoïme contre nous. Ça, ça y est. C'est-à-dire quand nous sommes en position de faiblesse et qu'il faut louvoyer pour survivre, alors on se courbe. Ça, c'est Jacob qui se courbe 7 fois devant Esaü. Et la Gemara dit malheur à ce jour où Jacob s'est courbé 7 fois devant Esaü. Il y en a un seul qui ne s'est pas courbé. C'est Binyamin, parce qu'il n'est pas encore né. Et c'est de Binyamin que naîtra Mardoché qui ne se courbera pas devant Aman. Vous savez cela? Et alors, j'ai dit une fois, c'est une blague de Pourim, pourquoi Mardoché ne se courbait pas devant Aman? Parce qu'il en avait Mardoché la tête. Mais c'est une blague de Pourim, ça. Mais c'est cette attitude du juif de l'exil, okay. Ça en revient en arabe encore, c'est Naham Yassidi. Ça veut dire que n'importe quoi que le goy, il lui tombe un œil, comme il dit. Alors, c'est parole d'évangile, comme il dit, jamais de la vie. Il faut bien comprendre ça. C'est que la Torah nous dévoile en clair 2 niveaux de stratégie radicalement différents. L'une qui s'appelle Jacob et l'autre qui s'appelle Israël, c'est Shimon et Lévi. Qu'est-ce que je vais vous expliquer très, très, très brièvement? C'est-à-dire qu'on voit que Shrem était vraiment amoureux de Dinah, mais son comportement est celui d'un barbare. Okay. Alors il faut mettre les choses au point. Alors, je vais t'expliquer. Ça, je vais te dire un chidouche. Et c'est un mystère. Pourquoi on les circoncis avant de les expédier dans l'au-delà? C'est la réponse. C'est-à-dire, Béprinat, en Lamaba, c'est des tzadikim. Ils méritent d'arriver là-haut, circoncis. Mais Béprinat, en Lamazé, c'est des barbares. Bien fait, c'est clair? Alors, ils ont décidé de les massacrer, mais de les circoncire d'abord. Maintenant, ceci dit, je veux dire, c'est à cause de l'ONU. Parce que si on a massacré les goyim, qu'est-ce qui ne serait pas passé à l'ONU? C'est des juifs, ça fait rien, ça passe. C'est terrible, mais c'est comme ça. Bon, et je voudrais terminer là-dessus, et s'il y avait des questions, on les analyse. Je vais vous montrer quelque chose. Eh bien ça, on l'a vu. Arour a pas... Ah ça, je vais parler après. Non, mais d'abord, sur le verset que je vous ai signalé, reprenez le verset 17 du chapitre 4. Ceux d'entre vous qui connaissent les taramim, vous savez que c'est les taramim, les accentuations. Okay, vous allez voir que la massora, c'est vraiment ce qu'elle veut. Regardez bien le verset. Vayedar kain et ishto, point virgule, et un zakev kato. Vatahar, vatele et hanour, point. Vaï Bonéir, point virgule, Vaïkra Shemaïr, et il nomma le nom de la ville, point virgule, Zachit Katon sur Aïr, Ken, comment il l'a nommé? Keshem, Tarha, Beno Hanouch, son fils est Hanouch. Ça veut dire, le nom de cette ville, c'était Keshem, comme le nom. Et c'est les lettres de Shrem. Okay? Vous voyez, donc on revient à Shrem. C'est un remède. Ça vous explique pourquoi il y a Shrem dans le pays de Canaan, et il y a Shrem ailleurs. Mais c'est Shrem de pays de Canaan qui nous intéresse. Voilà, retenez le thème, une minute. Essayez de revoir toute cette histoire d'Israël se baladant dans le monde entier pour chercher le mari de Dina. Et chaque fois, on est devant le même problème. Quelque part, il y a Shrem. Mais c'est un Shrem, mais c'est quand même un barbare. Alors ça veut dire que on sait que le projet messianique d'Israël est possible. On finira par rencontrer Shrem. Mais tant qu'il est barbare, il est barbare. Ça y est, c'est clair. Et alors, regardez la stratégie de Jacob. Il devait avoir 13 tribus. Et tant qu'il n'y a pas 13 tribus, le yichud du Shem Hashem n'est pas complet. C'est la valeur numérique de Echad, c'est 13. Okay? Il faut 13 tribus. Et il n'y en a que 12. Alors donc, pour le salut du monde, il faut trouver le mari de Dina. Et Dina, c'est la Minatadine, c'est pas n'importe quoi. Okay? Et alors, il y a eu échec. Et alors, quand même, Jacob s'est arrangé pour qu'il y ait quand même 13 tribus. Et après, on arrive à Lévi. Effectivement, il divise la tribu de Joseph en deux. Et ça en fait 13. Joseph sort du compte, il est presque au niveau des Avot, et on a 13 tribus quand même. Après la faute du Vaudor, il n'en reste que 12, parce que Lévi sort du compte, elle est à part. Et alors, à la fin des temps, nous avons des textes dans la Gemara pour ça, à la fin des temps, il y aura égalité entre la tribu de Lévi et les 12 tribus. C'est le temps messianique. Et égalité de statut, d'identité, entre la tribu de Lévi et les autres tribus. Et je ne vais pas rentrer dans ce problème. Réciproque. C'est-à-dire, les autres tribus auront la prérogative de la tribu de Lévi, et la tribu de Lévi aura aussi la prérogative des autres tribus. En attendant, il y a ce problème auquel je reviens, c'est la séparation des vocations. Et ce dont nous souffrons terriblement dans la société juive, et la société israélienne en particulier, c'est que cette solidarité à laquelle Isaac rêvait entre Jacob et Ésaü, à laquelle Moïse a rêvé entre Lévi et les autres tribus, Issachar, Zbouloun, ne marche pas. Ils sentent que la tribu de Lévi est disparue. Et sauf des Yéchidim très rares, qui sont les Lévites pour tout Israël. Les Lévites, ceux qui jouent le rôle des Lévites aujourd'hui, et ils se voient comme fondateurs de tribus. Chacun, ils se font de sa chita, et ça devient une tribu d'Israël. Alors qu'ils doivent être Lévites pour tout Israël. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train d'expliquer là? Il y a un problème. J'ai une petite hypothèse à ce sujet, mais c'est vraiment un ridouche plus que personnel. Je me demande s'il ne vaut pas mieux ne pas l'enregistrer. Et en tout cas, vous l'effacerez. C'est que peut-être ça ressortira d'une des fonctions des Lévites qui étaient les poètes d'Israël. Et effectivement, peut-être que plus que les philosophes, plus que les savants, les poètes sont claves. Alors que tous les autres, ils sont chefs de tribu. Vous avez compris un peu ce que vous dites? Effectivement, la fonction du shir des Lévites, c'est une chose extraordinaire. Quelle tribu a été choisie pour être la tribu de Lévi? Ceux qui savaient chanter, ceux qui savaient écrire des tehillim. Nous n'avons que deux armes secrètes, les tehillim et les tehillim. Mais je ne sais pas si vous avez... Je ne sais pas si vous avez vu des anciens livres de Tehillim. C'est écrit Tehillim. C'est remarqué. Bien. Alors, je crois qu'on a fait un peu le tour de la question. Ken, lui d'abord, il était ancien. Ken.
C'est clair, monsieur.
Alors, monsieur,
Marc. Ma Torah,
c'est ce que je suis. Voilà, la question de notre ami, c'est pourquoi la Torah nous a dit qu'il était chivin, chivite, les chivines, une des sept peuplades, qui était 10 et qui était 13 d'ailleurs. Suivant les versets, vous voyez qu'il y a 7 peuples, 10 peuples ou 13 peuples. Ça dépend des frontières de l'Israël. Et alors, les trois derniers, c'est les plus durs. Et alors, il y a une Gemara qui dit ceci. quand Israël est rentré dans le pays, c'était interdit de changer les habitudes de culture des parcelles des champs.
Tu connais cette demande-là ?
Parce que le pays était habité par les Chivites et qu'ils savaient, par une force prophétique, qu'est-ce qu'il fallait planter où. Ils prenaient la terre, ils la respiraient, ils disaient ici c'est du sucre, ici c'est du café, ici c'est de la vigne. Et alors, ça veut dire qu'il y avait, dans ce peuple-là, très vite, c'est pas pour rien qu'ils étaient là, il y avait une capacité dont l'homme moderne a perdu idée. Imaginez un paysan, prophète, qui sait, en reniflant la terre, qu'est-ce qui pousse là-dessus. Et pour te donner une indication. C'est l'ostam, Hivi. Et vous découvrez dans ces études que rien n'est stam dans la Torah. Seulement, il faut savoir que c'est un océan, l'étude de la Torah. Vous avez le temps. Et puis une chose vous mettra une autre, quand vous aurez une vue suffisamment globale de qu'est-ce que c'est le Midrash, la Torah chez Baal Peh, la Gemara, lorsqu'il parle des versets, vous saurez un peu ce que c'est que le verset. Vous avez compris. C'est pas stam des anecdotes que vous lisez dans des bibles en papier écrites en français. Ça n'a rien à voir. Bien. Et je crois que c'est là. Ah, et je crois que c'est là. Oui. Bibolo, bibolo. Ma. C'est rien. Nahon, asma. Donc, c'est Koach. Je reprends en face. La question est, c'est une bonne question d'ailleurs. Que les Tehillim ont été écrits par David, qui était de la tribu de Juda et pas de la tribu de Lévi. Mais il faut savoir qu'il y a 10 psalmistes, comme on dit en français, David est un d'entre eux, et que les principaux étaient les Lévites. Mais c'est un Koach, une force, une capacité qui est dans tout Israël. Comme le fait que être Bechor, c'était en principe tout Israël. Être Kohen, c'était en principe tout Israël. Cette capacité qui est en principe en tout Israël, la tribu de Lévi en a hérité de façon privilégiée. Ken. Ça ne veut pas dire que, d'ailleurs, il y avait chez les Lévites, mais je vous donne des exemples, je ne sais pas pourquoi on parle tout ça aujourd'hui, dans la Gemara, qui montre qu'on est vraiment ignorant de ce que ça peut représenter, toutes ces choses-là. La Gemara, c'est dans Gittin, chapitre 3, si je me souviens bien, parle que dans certaines circonstances, pour résoudre un problème difficile, il faut faire appel à un Lévi qui s'appelle Lévi. Un Lévi qui s'appelle Lévi. Okay. Lévi, c'est Nikra Lévi. Okay. Et vous savez, dans certaines familles, surtout chez les Ashkenazim, il y a un prénom, Lévi. Alors il peut, vous avez ça. Les Ashkenazim ont des prénoms comme ça, par exemple, le prénom Simha, que vous trouvez chez les garçons, chez les Ashkenazim. Je ne sais plus où ça vient, j'ai appris. Et puis, Et alors, donc, vous pouvez rencontrer un monsieur Lévi-Lévi. Mais ce n'est pas de ça dont parle la caméra. Un Lévi dont l'identité individuelle est Lévi. Il y a des Lévi plus. Bon. De la même manière, quand un descendant de la tribu de Yehuda a le roi HaKodesh, il a le roi HaKodesh. Et donc aussi, sur la chaune des Tehillim. Mais c'est Jacob qui va transmettre toutes ces valeurs. Comment est le verset à propos de Shrem, qui est de Kashti ou de Harbi, hein? Shrem va être donné un héritage à Yosef. Et Jacob dit, ça m'appartient personnellement, et dans la distribution du pays pour les tribus, je le donne à Joseph, pas ça, je l'ai obtenu par mon arc et mon épée. Ça c'est le pshat, de Kashti ou de Harbi.
Peut-être qu'il y a le verset en tête.
La Gemara intervient, et elle dit, al tikre de Kashti la bakashati. Ce n'était pas ma prière. C'est quoi de la bakashati? Bien. Alors, on a quand même avancé sur la question de Shrem. Ce que je voulais reprendre, donc, au point de départ, c'est cela. Dans le premier schéma, nous avons deux vocations qui, apparemment, sont exclusives l'une de l'autre. Retenez bien ce premier schéma, avec en préfiguration, pour plus tard, que lorsqu'on va arriver à l'identité Israël, Israël est capable des deux vocations-là. Mais a priori, il faut comprendre qu'elles sont incompatibles. C'est-à-dire, dans le reste de l'humanité, c'est incompatible. On a vu précédemment, une minute, ça va m'échapper, ça m'échappe. Rav Dakar. Je veux dire, je crois que vous avez donné le schéma suivant aussi. Si on fait une schématisation de la spécialisation des génies dans l'histoire des civilisations, je crois que j'en ai parlé la semaine dernière d'ailleurs, alors on s'aperçoit que l'Occident est devenue à la longue capable de performance dans les sciences et les techniques, c'est-à-dire la vocation matérielle, SA, et aveugle au niveau spirituel. On a parlé de ça ? Oui. Je reprends cela, c'est clair. Et ça, depuis, je vous dis, une date approximative dans la civilisation occidentale, européenne, c'est quand les jésuites ont réussi à détruire les Templiers. La tradition occidentale s'est perdue. Là, vous avez une date historique. Et il y a beaucoup d'occidentaux qui cherchent la tradition. Et ils n'arrivent pas à la trouver dans les sources de la mémoire occidentale. Ça s'est perdu. Et alors ils la cherchent en Orient. Et l'Orient, c'est l'inverse. C'est une performance extraordinaire dans la vie spirituelle, mais un aveuglement total dans les sens et les techniques, ce qui n'a pas toujours été le cas. Énormément de découvertes scientifiques et techniques viennent de l'Orient. Mais il est arrivé que l'Orient a préféré être, je ne sais pas comment, derviche, gourou, fakir. Bien. Et puis, ça ne signifie pas, encore une fois, qu'un occidental n'est pas capable de vie spirituelle, mais à condition de se faire le disciple d'un oriental. Et je pense surtout à tous ces chrétiens qui deviennent musulmans aujourd'hui en France. Je ne sais pas si vous savez que c'est un phénomène colossal. Okay. Et des grands mystiques chrétiens, déjà le siècle dernier, qui cherchaient la mystique chrétienne, je peux vous garantir qu'ils ne peuvent pas la trouver, elle n'existe plus. Je me suis beaucoup occupé de ce problème. C'est resté un peu chez les chrétiens orthodoxes de Russie. Et même là-bas, ça finit par disparaître. C'est-à-dire, si vous voulez un peu savoir ce qu'était vraiment la mystique chrétienne, ne lisez pas les Occidentaux, lisez les Russes. Et inversement, ça ne veut pas dire qu'un oriental n'est pas capable d'être un savant. Comme j'ai dit, un prix Nobel, il y en a, mais à condition d'adopter la méthode occidentale. Alors, sachons qu'il y a un cas particulier, c'est Israël. Israël, c'est ni l'Orient ni l'Occident, et Israël est capable des deux performances, ou au niveau du clan. L'idéal, et je reviens donc à ce schéma, l'idéal, c'est que ce soit la même personne qui soit capable des deux performances. Et on a cité le Gaon de Vilna, qui était capable de ces deux performances, mais il a choisi de se donner à la Torah. Je veux dire, on vous en parlera certainement du Gaon de Vilna. Il était un grand mathématicien, il était spécialiste de beaucoup de sciences, et en particulier, on raconte que son père lui a interdit de s'occuper de pharmacie. Parce que s'il était pharmacien, il y aurait la queue pour les médicaments du Gaon de Vilna, il n'aurait pas le temps d'étudier.
C'est
vous voyez ce que je veux dire, Ken? Oui, alors oui, c'est cas exceptionnel d'un homme capable de ces deux professions. Alors, un Gaon de Vilna, c'est un Gaon de Vilna. Un Rambam, c'est un Rambam. Et c'est pourquoi je suis en train d'éclairer une idée qui me semble importante. Alors que l'idéal, c'est cela, il faut savoir a priori que c'est impossible. Sauf pour ces cas particuliers. Sachez que quand on cite le Rambam ou le Gaon, ce sont des neshamot très différents. Ils n'avaient pas exactement le même seder de Pessah. C'est des cas exceptionnels. Okay. Mais ça va rester l'idéal. En tout cas, et c'est ça l'explication qui nous a éclairci beaucoup de choses que nous avons reçues du Rav Kook, la solution est au niveau du klal, et dans la mesure où il peut y avoir solidarité entre ces deux vocations. C'est le problème de Lévi et des autres tribus d'Israël. Je voulais ajouter une chose, on a cité au nom du Gaon que le jour où le même homme serait capable d'un chidouche dans la Torah et d'un chidouche en mathématiques, c'est le signe du temps messianique. Mais alors il faut savoir que c'est un vrai chidouche d'une vraie Torah et de vraies mathématiques. Je vais raconter une petite anecdote. De mon histoire d'éducateur. Il y a très très longtemps, est venu me voir un jeune étudiant, encore en France, disant voilà, qu'il avait découvert la Torah, qui voulait d'ailleurs être à l'Abnebrak, étudier, et il avait 22 ans à l'époque, mais c'était un mathématicien brillant. Il est venu me demander conseil. J'ai dit écoute, tu sais très bien que, passé 25 ans, on ne peut plus faire carrière en mathématiques à un niveau sérieux. Enfin, on peut être un répétiteur de mathématiques, même professeur d'université, mais ça se niveau-là. Mais un grand mathématicien, ça se fabrique avant 30 ans, avant 25 ans en général. Je ne sais pas si vous savez ça. Donc, on dit, fais des mathématiques. Tu deviendras un ilouvre en mathématiques, et comme tu es dati, il connaissait déjà toute la Mishnah par cœur. Ça fera beaucoup de bien au judaïsme qu'un grand mathématicien soit dati. Et puis tu apprendras un peu de Gemara de temps en temps. Okay comme il faut pour n'importe quel juif pour vivre. Un juif sans Gemara, c'est un juif. Je me rappelle une histoire que j'ai reçue d'un de mes maîtres, le Rav Schneerson, mais ce n'est pas celui que vous connaissez, c'est son cousin, avec qui j'ai appris Tania. il y a très longtemps quand il est arrivé de Russie. Et alors il me disait une fois, un homme qui ne connaît pas la Kabbalah, ce n'est pas un homme. Mais un juif qui ne connaît pas le Talmud, ce n'est pas un juif. Alors laquelle des choses est plus grave? Vous avez réfléchi le problème. Alors imaginez, un idéal pareil, un mathématicien à l'échelle mondiale, et il y en a des juifs, pour vous citer des noms, qui ont bouleversé les mathématiques. Alors imaginez que ce soit un Talmud Chacham dans le sens habituel, quelqu'un qui est connu comme étant Shomer Mitzvot et qui étudie. Et il n'a pas suivi mon conseil. Il a préféré aller à Bnei Brak. Quelques années après, il est venu en pleurant, regretter ce qu'il avait fait. Alors finalement, qu'est-ce qu'il va être? Un mashgiach d'une boucherie cachère. Alors que, on a besoin de... Mais alors qu'il aurait pu être... Parce que, passé un certain âge, il s'est rendu compte bon, qu'il pouvait continuer à apprendre la Mishnah. Mathématiques finies. Et voilà, on n'est pas Gaon, le Gaon de Vilna, c'est le Gaon de Vilna. C'est clair. D'ailleurs, comme vous savez, les Ashkenazim l'appellent le gros et les Sfaradim le gras. Est-ce qu'il y a encore une autre? Ben, c'est que c'est l'heure, oui. Rapidement.
Dernière.
Ah non, la dernière pour le
justement, depuis la semaine dernière et en début et en fin de ce cours, on a parlé des deux. Du couple Talmid Chacham et dirigeant responsable économique. Mais comment cette structure, cette solidarité plutôt, elle se met en place? Est-ce que c'est par l'exercice du
très bien,
du
très bien.
Ou alors par provenance divine?
Très bien, très bien, très bien.
Enfin, les deux à la fois.
Très bien.
Et il y a des choses qui sont
sur. Attends, une chose à la fois.
Une chose à la fois.
J'ai oublié. Il y a deux niveaux dans ta première question, dans la première partie de ta première question. C'est comment fonctionne cette solidarité dans la société, dans la cité. La Gemara s'en occupe. Il y a une soukara sanguine, une soukara en brachot. On sait pas de matière de femme chacham, on sait plutôt de femme chacham. Ça, vous devez l'étudier. Et puis, la Gemara a donné la réponse. On essaye d'abord la Torah. Si on voit qu'on peut être un Eloui dans la Torah, on voit la bracha dans la Torah, on continue la Torah. Sinon, on s'occupe des affaires. Entre-temps, on est devenu intelligent. Et c'est pourquoi les Juifs sont riches. mais
c'est
là.
C'est l'Ivoire du Prince, c'est l'Ivoire de choisir là-dessus.
Non, voilà. Bien que chacun a les dons qu'il a, mais quand on a cette double netia, c'est des neshamot rares qui sont capables d'être un grand dans Olam Hazeh et un grand dans Olam Haba. Alors, quoi choisir? Par exemple, maintenant encore, j'ai des bachouri et shiva qui me demandent des conseils. Des gens qui sont artistes, peintres ou musiciens, qui viennent me dire, mais je suis à la yeshiva, je ne peux pas me passer de la Gemara, et je ne peux pas me passer de la peinture ou de la musique, mais lequel de deux je vais faire? Alors, je leur donne la halakha. La halakha, c'est qu'on essaye d'être un grand dans la Torah. Maintenant, si on s'aperçoit qu'on n'arrive pas à être un grand, et un grand, c'est un grand, okay? Alors, on s'occupe de la vocation matérielle, elle est cachère si on est tzaddik. Ça, on arrivera dans les autres schémas. Et entre-temps, on a fait suffisamment de Gemara pour devenir un grand banquier en plus. Okay? Vous savez, parce que ça aiguise l'intelligence. La halakha, elle est comme ça. On essaye 5 ans avec un maître. Si au bout de 5 ans, on voit qu'on est tout juste ce qu'on appelle Hamour, non, c'est Sfarim, ça veut dire un âne chargé de livres. Eh bien, alors, on est. Vous savez comment les Français appellent les diplômes, des pots d'âne, c'est pas pour rien. Okay. Alors, on essaie encore 5 ans avec un autre. Si on voit que ça marche pas, on essaie encore 5 ans avec un autre. Et après, eh bien, on va s'occuper des affaires du monde. Entre-temps, on est capable de faire Dafyomi, Shulchan Aruch, Chumash, Sidra. Mais c'est pas ça, Talmid Chacham. C'est clair ce que j'ai dit?
Et il y a l'autre, enfin, la suite de la question. Tout à l'heure, vous avez fait référence à un chidouche du Rav Kook, à savoir que ce n'était qu'à l'échelle de la collectivité que le problème, à savoir de conjuguer les côtés matériels et spirituels, ne peuvent être résolu. Et vous avez expliqué comment, c'est-à-dire lorsque le clan protège ses Talmid Chachamim, et où, j'ai pas très bien compris, le Talmid Chacham transparaît dans le clan.
Non.
Qu'est-ce que ça veut dire transparaître dans
le... Transfigure les balais bâtiments. Voilà, je dis. Quand il y a une amitié réelle entre un Talmid Chacham et un Baal HaBayit, alors le Baal HaBayit aide le Talmid Chacham à avoir des élèves, et le Talmid Chacham aide le Baal HaBayit à gagner son Olam Haba. C'est clair? Pas plus compliqué que ça. Le Baal HaBayit, il ne sait pas de quoi il s'agit avec le Olam Haba. Il a entendu parler. Le Talmid Chacham, il sait. Mais le Talmid Chacham n'a pas de Ahiza dans Olam Hazeh. Alors, Ahiza de prise sur Olam Hazé. Alors le Baal HaBayit donne la possibilité au Tanakh Hacham de vivre dans Olam Hazé, et le Tanakh Hacham donne la possibilité au Baal HaBayit d'arriver à Olam Haba. Ça c'est le rêve de Isaac. Toi Jacob, toi Esaü. On verra pourquoi ça ne marche pas avec Jacob et Esaü. C'est le plan de la Torah pour Lévi et les autres tribus. Issara et Zvoulon. C'est clair? Donc, alors vous avez les cas particuliers des Yechidim, qui sont déjà, avant le temps messianique, tout seuls, les deux. Est-ce que c'est clair?
Okay. Alors, d'après ce que vous avez enseigné sur Chanoch, comment est-ce que Yaakov aurait pu éduquer Shrem pour qu'il se comporte correctement?
Très bien. Ça veut dire que la Gemara nous a indiqué que Jacob a fait tout ce qu'il a pu pour ça. Vayaham et Peneair. Alors la question est, peut-être que Shrem n'est pas éducable, et pourtant on voit qu'il a vraiment aimé Dina malgré son comportement de barbare. Le Midrash va plus loin et Dina l'a aimé. Donc c'est pas n'importe qui. Ça veut dire que peut-être que maintenant Shrem est inéducable. Et on ne peut pas risquer une monstruosité. Et dans la fin des temps, on trouvera peut-être un Shrem éducable. Alors c'est la différence entre le nouveau Jacob, qui risque avec un Shrem barbare de faire comme si c'était un Shrem authentique, et le niveau Israël qui refuse, tant qu'il n'est pas authentique, il n'est pas authentique. À l'échelle individuelle, il y a pu avoir des petites réussites comme ça, et on les appelle Hasidé ou Monta Olam, et ils ont droit à Olam Abba en montgolfière. Okay, c'est un peu le cas des Shrem, on les a envoyés à Olam Abba en chaise à porteur. C'est la chaise de la Mila. Ça veut dire que quand on nous raconte une histoire qui s'est déjà passée, on nous la raconte parce qu'elle n'a pas réussi, mais on nous la raconte comme modèle de ce qui doit réussir. Est-ce que j'ai répondu? Parce que ta question a été pourquoi Jacob n'a pas réussi, si j'ai bien compris, à éduquer Shrem.
Oui, parce qu'en fait, dans le verset qu'on a vu sur Yaakov, quand il y a écrit Vayichal et Prémé,
oui.
Alors c'est des choses reines. Enfin, c'est
un vocabulaire qui est
pas... Vous
nous avez expliqué que c'était...
Il essayait d'éduquer
Shrem.
Mais pourtant, ces
mots-là,
c'est pas des mots
d'éducateurs. Non. Alors, je reprends les éléments du Midrash. J'ai parlé trop vite. Ça veut dire, il a fait Hanina l'Aïr. Et après, la Gemara dit Tiken l'Aïr. Il a fait un Tikkun l'Aïr. Et il apprend de Vayken et Katasade. Il faut faire un Tikkun. Et c'est pas facile de faire un Tikkun chez le Goïm. Ok? Bon, alors ta question, elle reste. Ça veut dire, est-ce que Jacob aurait pu réussir? Pourquoi il n'a pas réussi? Eh bien, dans les commencements, on sait ce qu'il y a à faire, mais dans les commencements, ce n'est pas Shalem. Je vous donne un exemple avec Pessah. Vous étudierez à propos de Pessah que tout de suite, la Torah, peut-être on aura cet après-midi au cours de Parasha, sur Parasha Chodesh, la Torah nous indique, au moment des lois de Pessah de l'Égypte, Pessah de Mitzrayim, nous indique qu'il faudra les commémorer ce Pessah des Mitzrayim qu'on appelle Pessah Shel Dorot. Vous avez étudié cela? Alors c'est étonnant. Pourquoi il faut commémorer la sortie d'Égypte alors que la sortie d'Abraham d'Ur Kasdim n'est pas commémorée? Pour ça, il y a beaucoup de raisons. Mais une des raisons, c'est que la sortie d'Abraham d'Ur Kasdim est définitive. Elle est irréversible, ça réussit. Mais on ne revient pas au Kasdim. La sortie d'Égypte est un commencement irréversible mais inachevé. Alors il faut le reprendre chaque année jusqu'au dernier Pessah. Les avis du monde à Mashiach, comme dit la Gada de Pest. Alors on est averti dès le début que la sortie d'Égypte aurait pu être l'entrée dans Olam Haba. Et vous avez mis Rachid qui dit en clair. Le monde commençait à se transformer. Les malades guérissaient, les handicapés guérissaient, les morts allaient ressusciter. Et puis la faute est arrivée, Pancher. Mais ça ne veut pas dire que ça n'aurait pas pu réussir, ça n'a pas réussi. Mais le point de départ est irréversible. De la même manière, on se rappellera ce que Jacob voulait, un Shrem authentique. Celui-là était approximatif. Et alors, la question reste, est-ce qu'on a étudié à propos de Caïn et Abel? Abel n'a pas réussi à éduquer Caïn. Mais est-ce que Caïn est éducable? Et qu'à voir comment se comporte l'humanité depuis le début jusqu'à la fin. Est-ce que ces gens-là sont éducables? Et alors, on a eu beau leur apprendre, tu aimeras ton prochain comme toi-même, ils le répètent pieusement et ils s'entre-dévorent. Au nom de l'amour universel. Et alors, peut-être que l'humanité n'est pas éducable. Alors ça, c'est le récit pessimiste. Okay? Et je reviens aux analyses de tout à l'heure. apparaît un récit optimiste à partir d'Abraham, oui, on peut être tzaddik des tâches matérielles, ce sera Joseph. Okay? Et c'est pourquoi c'est Joseph qui disqualifie Ésaü, comme on le verra plus tard. Et l'enseignement du Rav, c'est que à l'échelle du klal, l'humanité ne peut pas être sauvée. Mais à l'échelle des individus, dans l'humanité, il y a les chassidés au moteur en âme. Donc, rien n'est perdu pour personne. Est-ce que c'est clair, ce que vous dites ? Par exemple, une autre formule. On s'est posé la question. Est-ce que ça a servi à l'humanité le fait du passage d'Israël chez les goïms ? Résultat, la chrétienté et l'islam. Deux échecs colossaux. C'est sûr, c'est un échec. Mais entre-temps, des individus de ce monde de la chrétienté ou de l'islam sont devenus des tzaddikim. Donc les individus, chassidim ta'olam, yesh lahem chelek la'olam haba. Mais le récit du klal de l'humanité, celui-là est pessimiste. Une autre formule, vous entendrez dire peut-être, et peut-être on va s'arrêter là parce que c'est l'heure, à moins que vous êtes un jour de jeûne, je ne sais pas. Vous entendrez dire qu'à la fin des temps, il n'y aura plus de goyim. Vous avez entendu dire ça ? De goyim. Vous n'avez jamais entendu dire ça ?
La fin des temps, c'est...
Alors, vous risquez d'entendre ça, ok ? Alors là, le sens de cela, c'est pas que les goïms, les hommes qui sont les goïms vont disparaître, mais les goïms, les entités des goïms disparaîtront comme telles. Et est-ce que c'est clair ? C'est-à-dire à l'échelle individuelle, n'importe quelle créature du bon Dieu, un ben Adam, peut avoir son rôle à Baba s'il accepte d'être hassid. C'est ce qu'on appelle les hassidés au Moutaola. Donc pour notre problème, il y a une différence de nature entre Israël, c'est le klal kekadosh, et l'individu doit le devenir. Il doit faire de lui un individu de ce klal. C'est clair. Alors que chez les Moutaola, le klal est perdu depuis l'origine. C'est un discours pessimiste, et les goïms le savent. Mais les individus peuvent être sauvés. Alors je cherche dans ma mémoire le verset que nous enseigne Laura à ce sujet. C'est Shomra Nafshi, mi goy lo chassid, mi ish mirma me avla tehtefaleteni.
Alors c'est le psaume.
Hein? Le psaume dit Shomra Nafshi, mi goy lo chassid. Vous vérifierez, je ne sais pas, je me trompe peut-être d'une lettre. C'est David Amelir qui demande dans le psaume sauve-moi d'un goy qui ne serait pas chassid. Ça veut dire que pour qu'un goy soit bien, il faut qu'il soit chassid. Est-ce que c'est clair ? C'est ce qu'on appelle les chassidés au monde à Olam. L'enseignement est très clair. La Mishnah dit « Kol Israël yesh lahem chelek la'olam haba, ve'elu shen lahem » Et elle dit « Chassidés au monde à Olam yesh lahem chelek la'olam haba. » Ça veut dire l'humanité en général va à une histoire catastrophique. À l'échelle individuelle, ils peuvent être sauvés. Pour Israël, c'est l'inverse. C'est le clan Israël qui va hors la maba. L'individu peut être perdu. Vous voyez la différence ? Qui est privilégié dans l'histoire ? Allez, on va terminer sur ce thème.
Ce voilà. Qui veut dire que parmi les goyim, il n'y en a jamais plus de 49% qui pourront se sauver.
Même, c'est le clan, je veux dire, c'est... même si c'est 99%, ce qui est une utopie, c'est en tant qu'individu.
Hein ? Seulement, il faut qu'il passe en tant qu'individu.
C'est pas qu'il faut. C'est impossible autrement. Les civilisations disparaissent. Ça ne veut pas dire que les hommes disparaissent. Je reprends, vous avez deux Mishnayot. Kol Israël, yesh lahem chelek la'olam haba. Ve'elu shen lahem. On les compte sur les doigts de la main, et la Gemara essaie de les récupérer tous. Je vous ai remarqué. Alors que pour les Umot Ha'olam, c'est l'inverse. Chassidé Umot Ha'olam, yesh lahem chelek la'olam haba. Ça veut dire, au point de départ, il y a deux destinées radicalement différentes. Et ça, on va étudier avec Jacob et Ésaü. On reprendra ça en détail. L'humanité, depuis Adam Rishon, elle est perdue. Mais les chassidés au Mouta Olam peuvent être sauvés. Israël, c'est l'inverse. Israël, comme tel, est sauvé. Les individus d'Israël peuvent se perdre. Vous avez compris ? Alors, qui est privilégié dans cette histoire ? Les goyim ou Israël ? Jamais la vie, les goyim. Le temps travaille pour eux. Vous n'avez pas compris ?
Pourquoi le temps travaille
pour eux ? Le temps travaille pour eux. Parce que chaque jour, il peut y avoir un chassid de Mouta Olam de plus, tandis que chaque jour, il peut y avoir un membre d'Israël perdu de plus.
Ah, mais je pensais que
c'était là. Non, oui, ça se compense.
Attendez, tout le monde attend ici, s'il vous plaît.
C'est vrai, ce n'est pas la vocation.